Audible Studio présente L'épée de vérité, livre 9, La chaîne de flammes, de Terry Goodkind, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Vincent Deboire. À Vincent Casquella, un homme d'idées, de volonté, de force et de courage, et un ami qui répond toujours présent quand je l'appelle. Chapitre 1er.
Tout ce sang est le sien ?
Demanda une voix féminine.
J'ai bien peur que oui,
répondit une autre. Alors que Richard mobilisait toutes ses forces pour ne pas s'évanouir, les propos des deux femmes qui marchaient à côté de lui semblaient venir de très loin. Qui étaient ces personnes ? Il n'aurait pu le dire avec certitude. Il les connaissait, il le savait, mais leur identité pour l'instant n'avait aucune espèce d'importance. La douleur qui lui déchirait le côté gauche à chaque inspiration l'avait poussé jusqu'aux frontières de la panique. Au prix d'un effort surhumain, il parvenait à se contrôler assez pour satisfaire son désir d'inhaler de l'oxygène. Pourtant, ce n'était pas son plus grave sujet d'inquiétude. Richard voulut parler à ses compagnes et aux hommes qui le portaient de l'angoisse qui lui nouait les entrailles. Mais les mots refusèrent de se former dans sa gorge et il réussit seulement à produire un piteux gémissement. Il prit le bras d'une des femmes. « Bon sang, il fallait que ces gens s'arrêtent et l'écoutent. » Hélas, l'idiote ne comprit pas ce qu'il désirait et crut malin d'ordonner aux hommes de presser le pas. Ces pauvres types étaient déjà à bout de souffle, et ils avaient de plus en plus de peine à avancer sur le sol rocheux dans les ombres d'une forêt de pins géants. Depuis le début, ils tentaient de ne pas trop secouer le blessé, mais ils n'avaient jamais osé ralentir pour récupérer un peu. Dans le lointain, un coq lança son cocorico habituel, comme s'il s'était agi d'un matin ordinaire. Richard observait avec un étrange détachement tout ce qui se passait autour de lui, y compris la frénétique activité de ses sauveteurs. Seule la douleur lui paraissait réelle. Un jour, se souvint-il, quelqu'un avait dit devant lui qu'on mourait toujours seul, quel que fût le nombre de gens présents autour de soi. Eh bien, c'était en train de lui arriver, semblait-il. Lorsque le petit groupe sortit des bois pour déboucher dans un champ constellé de touffes d'herbe, Richard aperçut le ciel plombé d'où se déverseraient bientôt des trombes d'eau. Un orage compliquerait encore les choses, c'était évident, si la pluie voulait bien attendre encore un peu. Richard distingua soudain la façade en bois brut d'un petit bâtiment, puis une clôture de jardin presque entièrement décolorée par les intempéries. Affolés, des poules détalèrent pour ne pas être piétinées par les intrus qui venaient d'entrer dans le jardin. Un peu partout, des voix masculines criaient des ordres. Trop occupés à lutter contre la souffrance, car il ne devait à aucun prix perdre conscience, Richard aperçut à peine les visages décomposés des gens qui le regardaient passer. Il aurait juré qu'on lui déchiquetait les entrailles de l'intérieur. C'était abominable. Fendant la foule, les sauveteurs arrivèrent devant une petite porte, l'ouvrirent et entrèrent dans une pièce obscure.
« Posez-le là !»
cria la première femme.
« Oui, là, sur la table !»
La voix de Nietzsche reconnut enfin Richard. Mais que faisait-elle ici? Quelqu'un balaya d'un revers de la main les gobelets d'étain posés sur la table. En s'écrasant sur le sol, ils produisirent un étrange tintement métallique. Des objets plus petits, peut-être découverts, subirent le même sort. Puis un grand bruit signala qu'on venait d'ouvrir les volets pour laisser entrer la lumière grisâtre du jour. Richard supposa qu'il se trouvait dans une ferme abandonnée, aux murs inclinés selon un angle bizarre, comme s'ils avaient du mal à tenir debout. Sans ses occupants habituels qui lui donnaient la vie, ce lieu semblait attendre la destruction et la mort. Les hommes qui tenaient les bras et les jambes du sourcier le soulevèrent délicatement, puis le posèrent sur le plateau en bois grossièrement taillé de la table. Le flanc gauche de Richard le torturait tellement qu'il faillit décider de retenir sa respiration aussi longtemps que possible. Mais pour pouvoir parler, il avait besoin d'air, c'était une loi incontournable. Dehors, un éclair illumina le ciel. Une seconde plus tard, le tonnerre fit trembler les murs de la bicoque.
« Nous avons eu de la chance d'arriver ici avant la pluie, » dit un des hommes.
Nietzsche hocha distraitement la tête, puis se pencha sur Richard et lui palpa soigneusement le torse. Hurlant de douleur, le blessé se débattit pour échapper à cet examen pourtant indispensable. Avec une force étonnante, la seconde femme lui plaqua les épaules contre le bois. Richard tenta encore de parler. Cette fois, il faillit réussir, mais une quinte de toux ruina tous ses efforts. La femme qui lui tenait les épaules le lâcha d'une main pour lui faire tourner la tête sur le côté.
« Cracher !»
lança-t-elle en se penchant sur lui. Terrorisé parce que l'air semblait ne plus vouloir pénétrer dans ses poumons, Richard obéit. La femme lui enfonça les doigts dans la bouche, l'aidant à expectorer assez de sang pour dégager un peu ses voies respiratoires. Tandis qu'elle sondait la chair autour de la blessure, Nietzsche lâcha un abominable juron. Puis, elle murmura
« Esprit du bien, faites qu'il ne soit déjà pas trop tard. »
« Je n'ai pas osé retirer le projectile, »
dit l'autre femme pendant que Nietzsche déchirait la chemise imbibée de sang du sourcier.
« Je ne savais pas si c'était une bonne idée, alors j'ai préféré ne pas y toucher et partir à votre recherche. »«
Une excellente initiative, »
répondit Nietzsche en glissant les mains sous le dos de Richard.
« Si tu avais fait ça, il serait mort depuis un bon moment. »«
Mais vous pouvez le guérir ?»
Une supplication bien plus qu'une question. D'ailleurs, Nietzsche ne prit pas la peine de répondre.
« Oui, vous pouvez le guérir !»
grogna l'autre femme entre ses dents serrées. Un ton menaçant unique entre tous. C'était Kara. Richard en aurait mis sa tête à couper. Il n'avait pas eu le temps de lui parler avant l'attaque, mais à l'évidence, elle devait savoir. Dans ce cas, pourquoi ne disait-elle rien? Elle aurait pu si facilement apaiser ses inquiétudes.
« Sans lui, » dit un des hommes, « nous aurions été pris par surprise. En attaquant les soldats qui allaient lancer l'assaut, il nous a tous sauvés. »«
Il faut le tirer de là !»
lança un autre type. Nietzsche eut un grand geste impatient.
« Dehors tous. Cette pièce est minuscule et j'ai besoin de toute ma concentration. »
La foudre et le tonnerre firent écho à ces paroles, comme si les éléments refusaient d'accéder au désir de celle qu'on surnommait naguère la maîtresse de la mort.
« Kara viendra nous avertir dès qu'il y aura du nouveau ?»
demanda un troisième homme.
« Oui, oui. Allez, filez d'ici. »
« Et assurez-vous que d'autres soldats ne se préparent pas à nous attaquer ?»
lâcha froidement Kara.
« Au cas où il y en aurait, ne vous montrez pas. En ce moment, nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'être découverts. »
Les hommes jurèrent d'obéir à la mort de Sith. Puis ils ouvrirent la porte, laissant entrer un peu plus de lumière blafarde, et sortirent comme des fantômes, à croire que les esprits du bien eux-mêmes avaient décidé d'abandonner le sourcier. En passant, un homme tapota brièvement l'épaule de son chef pour le réconforter et lui donner courage. Richard reconnut vaguement le brave combattant et se souvint qu'il n'avait pas vu tous ces gens depuis un bon moment. Eh bien, les retrouvailles étaient pour le moins bizarres. La pénombre revint dans la pièce dès que le dernier sauveteur eut refermé la porte derrière lui. Par une journée si morose, la lumière qui filtrait de la fenêtre ne suffisait pas. Richard était en chemin pour rencontrer Nietzsche quand des troupes de l'ordre impérial avaient attaqué son campement. Venus écraser l'insurrection contre le règne sanglant de Jagang, ces soldats ne reculaient devant aucune atrocité. Juste avant de les affronter, Richard avait pensé qu'il devait absolument rejoindre Nietzsche, car elle seule pouvait l'aider. Une ultime étincelle d'espoir dans un océan d'obscurité et d'angoisse. À présent, il devait trouver un moyen de la forcer à l'écouter. Alors qu'elle se penchait un peu plus, sa main glissant le long du dos de Richard pour déterminer si la pointe du projectile était ressortie, il parvint à saisir la manche de sa robe noire et à tirer dessus. « Ses doigts étaient rouges de sang, » constata-t-il. Et chaque fois qu'il toussait, un liquide chaud coulait sur son menton.
« Richard, tout va bien se passer, alors reste tranquille. »
Les longs cheveux blonds de Nietzsche ondulèrent sur ses épaules quand le sourcier l'attira un peu plus près de lui.
« Je suis là. Calme-toi. Allons, je ne te laisserai pas. Ne bouge pas et fais-moi confiance. »
Malgré les efforts qu'elle produisait pour la dissimuler, l'angoisse faisait trembler la voix de la jeune femme et voilait ses magnifiques yeux bleus embués de larmes. Cette blessure risquait de dépasser ses compétences de guérisseuse. Elle devait le savoir au moins aussi bien que Richard. Du coup, il était plus important encore qu'il lui parle. Il essaya, mais l'air lui manqua de nouveau. Grelottant de froid à bout de souffle, il parvenait à peine à gémir. Pourtant, il ne devait pas mourir. Pas ici, et encore moins maintenant. À cette idée, des larmes perlèrent à ses paupières. Il tenta de lever la tête, mais Nietzsche le poussa doucement en arrière.
« Seigneur Hall, » dit Kara. « Tenez-vous tranquille, je vous en supplie. »
Elle décrocha la main de Richard du tissu noir et la serra très fort.
« Nietzsche va s'occuper de vous et tout ira bien. Laissez-la vous soigner, c'est vital. »
Contrairement à Nietzsche, dont la crinière cascadait en liberté sur ses épaules, Kara arborait une longue tresse blonde. Si inquiète et angoissée qu'elle fût, la mort de Sid restait l'image même d'une guerrière à la volonté et au courage indomptable. Alors qu'il s'enfonçait dans les sables mouvants de la terreur, Richard s'accrochait comme à une planche de salut à la force tranquille de son ami.
« La pointe n'a pas traversé, »
annonça Nietzsche en retirant la main dessous le dos du blessé.
« Je vous l'avais dit, il a réussi à dévier un peu le projectile avec son épée. C'est encourageant, non? La situation serait pire si la pointe était ressortie. »
« Absolument pas. »
« Quoi? Que voulez-vous dire ?»«
C'est un carreau d'arbalète, pas une flèche munie d'une longue hampe. » Si la pointe avait traversé, ou presque, il suffirait de pousser, de casser le bois juste avant la tête de fer barbelé, puis de retirer la hampe courte de la plaie.
Nietzsche préféra ne pas décrire ce qu'il fallait faire quand on n'avait pas cette chance.
« Il ne saigne pas trop, » dit Kara. « Au moins, nous avons enrayé l'hémorragie. »«
Extérieurement, oui, » concéda Nietzsche. Mais elle continue à l'intérieur de son corps, et son poumon gauche est plein de sang.
Cette fois, ce fut Kara qui saisit la manche de la robe noire.
« Vous allez intervenir, n'est-ce pas? Vous devez... »«
Bien sûr que je vais agir !»
cria Nietzsche avant de se dégager sans douceur. Richard gémit de douleur. Malgré tous ses efforts, il s'enfonçait de plus en plus dans les sables mouvants de la peur. Nietzsche lui posa une main sur la poitrine pour le réconforter et le forcer à ne pas bouger.
« Kara, pourquoi n'irais-tu pas attendre dehors avec les autres ? N'y comptez pas. Je ne sortirai pas d'ici, c'est bien compris ?»
Nietzsche soutint un moment le regard de la mort de Sid, soupira d'agacement, puis détourna la tête et saisit entre le pouce et l'index la petite partie de la hampe du carreau qui dépassait du flanc de Richard.
Richard sentit la magie de son ami courir le long du bois, puis dans la pointe de fer. Comme sa voix si curieusement douce, il aurait reconnu entre mille le contact du pouvoir de son ancien ennemi.
Il devait parler très vite. Lorsqu'elle aurait commencé de le soigner, nul ne pourrait dire quand il reviendrait à la conscience. S'il y revenait un jour. Mobilisant toutes ses forces, Richard se redressa, saisit le col de la robe noire, tira Nietzsche vers lui et plaqua la bouche contre son oreille. Il devait demander si quelqu'un savait où était Callan. Si personne ne pouvait répondre, Nietzsche l'aiderait à la retrouver. Mais le sourcier ne put prononcer qu'un mot. Un nom, plutôt.
« Callan, »
coassa-t-il.
« Du calme, Richard, du calme. »
Nietzsche prit les poignets du sourcier et le força à lâcher sa robe.
« S'il te plaît, écoute-moi bien. »
Elle appuya sur la poitrine de Richard jusqu'à ce qu'il s'étende de nouveau.
« Le temps presse et il faut que tu te calmes. Détends-toi et laisse-moi me charger de tout. »
Elle ramena en arrière les cheveux de Richard, lui caressa le front d'une main et de l'autre saisit de nouveau le bout de la hampe du carreau désormais ensorcelé. Le sourcier voulut crier qu'il fallait d'abord trouver Kalan, mais le léger fourmillement de la magie se transforma en une douleur paralysante. La poitrine déchirée de l'intérieur, Richard se pétrifia. Il distingua encore un moment les visages de Nietzsche et de Kara, puis des ténèbres mortelles envahirent en un clin d'œil la pièce. Nietzsche l'ayant déjà soigné par le passé, il connaissait tout de son pouvoir. Du moins, il le croyait. Parce que cette fois, c'était différent. Radicalement et dangereusement différent.
« Que faites-vous ? »
demanda Kara.
« Ce qui est indispensable pour le sauver, c'est le seul moyen. »«
Mais vous ne pouvez pas... »«
Tu préfères le voir glisser entre les bras de la mort ? »
Si c'est ça, n'hésite pas à me le dire, sinon laisse-moi faire ce qui s'impose pour qu'il reste dans ce monde. »
La mort de Sith dévisagea quelques instants l'ancienne maîtresse de la mort, puis elle capitula. Quand Richard voulut prendre le poignet de Nietzsche, ce fut Kara qui l'en empêcha et lui plaqua le bras contre le flanc. Le bout des doigts reposant sur le pommeau de l'épée de vérité, le sourcier voulut prononcer une fois encore le nom de sa femme, mais aucun son ne sortit de ses lèvres.
« Vous avez entendu ce qu'il a dit tout à l'heure ?»
demanda Kara à Nietzsche.
« Pas vraiment. C'était un nom, je crois. Kalan, dirait-on. »
Richard tenta de hurler un oui retentissant, mais rien ne vint.
« Kalan ?»
répéta la mort de Sith.
« Qui est-ce ? »
« Je n'en ai pas la moindre idée, mais il a perdu beaucoup de sang et j'ai peur qu'il délire. »
Une nouvelle vague de douleur déferla en Richard, lui coupant le souffle. La foudre tomba, le tonnerre gronda et des trombes d'eau se déversèrent du ciel pour venir tambouriner sur le toit de la ferme. Les ténèbres s'épaissirent, brouillant totalement la vision de Richard. Alors qu'il essayait une dernière fois de prononcer le nom de Kalan, la magie de Nietzsche s'empara totalement de lui. Alors, abdiquant toute volonté, il sombra dans le néant.